La chronique dans ce temps-là avec Philippe Basque, une invitation du village historique acadien.
Philippe, bonjour.
Bonjour Claude.
Vous allez nous parler ce matin de deux articles qui sont dans la nouvelle revue historique Nicolas Denis.
Oui, c'est ça. Donc la semaine passée, on a parlé d'un un des articles. Là, on va parler des deux derniers. Il y avait trois articles dans le fond dans la revue. Puis elle est disponible, mais là, Post Canada est en Grèce. Fait que là, il va falloir
certains problèmes de livraison.
C'est ça. Il va falloir attendre. Mais moi, je l'ai eu. J'ai été la chercher sur place à Chipagan. Puis, c'est ça. Les deux derniers articles, ça a été fait par Robert Légère. Puis, lui parle des promesses de mariage qui étaient publiées dans les années 1830. Donc, ça explique un peu comme vivaient les gens dans ce temps-là. Puis, dans les années 1830, il a regardé le registre, lui, qui était pour la péninsule avant que Sud-Tracadie et Chipagan étaient plus détaillés. Puis, celui de Caraquet, à l'intérieur, on retrouve des promesses de mariage que moi, je me rappelle pas nécessairement que quelqu'un m'a raconté ça ou que j'ai vu ça non plus. Là, en fait, ça me disait pas grand-chose.
C'est-à-dire que pour les gens qui savent pas, il fallait l'annoncer dans le feuillet paroissial à l'avance pour dire qu'elle allait se marier.
Avant, il fallait publier les bans. Ça a tout en fait, là, publier les bans, là, comme trois semaines de temps là, ou tant de semaines d'avance là, quand il allait avoir un mariage annoncé. Là. Ça, il fallait le dire en chair parce que les gens ne savaient pas lire et écrire. Puis par après, ben, là, on pouvait le publier dans le bulletin paroissial ou dans le bulletin paroissial.
Non, mais est-ce que c'était pour réserver les bans? C'est ça? Ou c'était
ça s'appelle des bans, B-A-N-S, les bans d'église. D'une façon d'annoncer le mariage si quelqu'un était contre ça ou
ce
genre-là. Fait qu'eux autres, ils n'annonçaient pas nécessairement le mariage, mais ils annonçaient la promesse d'un mariage.
C'est pas pareil, parce qu'il y a des promesses qui n'ont pas été tenues.
Non, exactement. Puis, c'était pas non plus le mariage officiel non plus, là, ce document-là. Fait que lui, il y a un extrait là, donc on voit. Mm-hmm. Puis, il en a trouvé un petit peu, mais il n'a pas été très loin dans la recherche. Fait que ça, c'est une recherche à venir qu'il va en avoir. Mais j'ai un exemple, par exemple, qui a donné d'un mariage qui n'a pas eu lieu, qui est celui de Joseph Goupy avec Julienne Gautreau. Fait que lui, Joseph Goupy venait de Caraquet, puis elle, Julienne Gautreau, c'est une fille de Tracadie. Hein. Fait qu'ils s'étaient promis en mariage, mais on ne sait pas pourquoi, ils se sont séparés eux autres, puis le mariage n'a pas eu lieu. Fait que plus tard, dans les autres listes de promesses de mariage, le couple revient, mais avec d'autres mondes. Ça fait qu'on sait que...
ça marchait pas des fois, hein?
Ça n'a pas marché entre eux autres, parce qu'elle, Julienne Gautreau, c'est une des ancêtres des Ferguson. Elle va marier David Ferguson, qui est dans la famille de Ferguson de Tracadie, là, qui était à la pointe des Ferguson à Tracadie, puis toute gang là. Puis lui, Joseph Goupy de Caraquet, va marier une fille de Tracadie pareil, pourquoi ça l'attirait? Il va marier une Marie-Caroline Brideau. Ça fait que eux autres vont se séparer puis vont y aller vivre.
Ça te change un arbre généalogique pas à peu près?
Ouais. Ben, ils n'ont pas eu d'enfants. C'est une promesse de mariage puis ils ne se sont pas mariés.
Okay.
Ça se peut que tu ne t'aboutissais pas avec ton mariage. Même ça, on parle des années 1830 là, jusqu'à 37-39.
Ben, j'imagine que les couples avaient d'autres problèmes. Il y avait des problèmes aussi, comme les couples ont des problèmes aujourd'hui.
Oui, ça c'est la même chose.
Ça n'a pas changé.
Non. Puis l'autre, l'autre article, c'est Nicolas Landry, qui est un historien à Caraquet, qui a travaillé longtemps à l'université à Chipagan. Et puis lui a fait une étude sur la compagnie Frewing, là, avant en nom, dans la misère à le prononcer.
Frewing!
Les vieux prononçaient ça « Frewing ». Puis aujourd'hui, ben là, on le prononce un petit peu plus à l'anglaise, « Frewing » ou « Frewing ».
F-R-U-I-N-G.
Oui, eux autres, c'était un type qui était originaire de Jersey, qui était dans les pêches à la morue, puis il fournissait beaucoup de produits aux pêcheurs. Là. Puis William Frewing, lui, avait travaillé pour la compagnie Robin. Puis c'est tout le même système de ces compagnies de pêche-là, c'est-à-dire que la compagnie de pêche avançait beaucoup d'objets, beaucoup d'items, achetait la morue des pêcheurs, puis souvent s'organisait pour que le pêcheur était tout un petit peu endetté envers de la compagnie, puis s'assurait aussi de garder le contrôle sur ces pêcheurs-là, s'assurer que les pêcheurs ne vont pas vendre le poisson à d'autres compagnies. Là. Ah. Mais on voit que les compagnies entre eux autres, au tournant du siècle, vont quand même faire affaire entre eux autres. Là. Quand tu regardes les lettres, la documentation, les reçus, des billets à ordre, les ledgers, là, ce qui était les livres de compagnie, là. Tu sais, la Robin avec la Frewing, avec les Logie, avec les particuliers aussi. Il y a quand même quelques Acadiens, là, fin des années 1800, début 1900, qui vont commencer à ouvrir des petits magasins généraux, puis commencer à acheter la morue, mais des fois, ils achetaient de l'éperlan aussi, ils achetaient des huîtres, les bleuets aussi. Donc, ils diversifient un petit peu, mais il reste que la morue est principalement le poisson qu'ils achètent. Fait que lui, il y a comme 1, 2, 3, 4, il y a comme 6 parties dans l'article Puis, il s'est concentré surtout sur ce qui était l'aspect économique. Là. Qu'est-ce qui pouvait être les échanges dans le magasin ou au sein de la compagnie? Puis, qu'est-ce qui peut être des problèmes selon la documentation qui était disponible au centre d'études, là, pas au centre d'études, mais au centre d'archives à Chipagan, à la Société historique Nicolas-Denis? Parce que la Fring avait un fonds d'archives, eux autres. Fait qu'ils ont plein d'items, là, de papier qu'on peut aller piger dedans puis voir. Là. Puis, il y a beaucoup d'ancêtres, je dirais, de Lamèque, Chipagan, ce coin-là. Il y en a un petit peu de Caraquet, Saint-Simon. Tout ce que je dirais entre Caraquet, en passant par Saint-Simon, en allant par Chipagan, le Goulet, toute l'île Lamèque, un petit peu de Miscou. C'est tout ce monde-là qui est là-dedans un peu, tout ce qui pêchait. Même les particuliers qui pouvaient acheter
qui étaient
choses.
Employés, là, autrement dit.
Ben, ils vendaient la morue à la compagnie. Fait que dans le fond, ils étaient comme employés forcés. Là. Mm-hmm. Ils auraient pu aller vendre ailleurs, mais dans le fond, là, il y avait une tradition d'établi, puis il y avait déjà comme son compte-là. Puis il n'y avait pas le choix d'aller.
Il y avait comme un monopole, si on
pour
veut.
Pour rembourser. Ben, ils avaient. Quelques compagnies l'avaient, le monopole. Il y en avait d'autres qui essayaient de starter. Mm-hmm. Fait que dans l'article, là, je vais aller par. C'est, à cette époque-là, c'est Georges le Riche, qui est comme le gestionnaire à Lamèque, là. Puis c'est lui un peu qui mène toute la barque.
Il y a un nom prédestiné.
Oui, Georges le Riche. Lui, il est enterré à Caraquette, là. Puis après ça, l'autre, c'est Nicolas de Sainte-Croix. Puis Nicolas de Sainte-Croix avait marié une fille de Paris-Cite, là, il me semble qu'il a marié une Black Hall de Caraquette. Puis lui, c'était le gestionnaire de Caraquette. Tu avais lui de la Mecque, puis lui de Caraquette. Puis ils n'ont pas le choix de s'envoyer des lettres. Hein. Il n'y a pas d'email dans le temps. Fait que c'est pour ça qu'on a beaucoup de documentation entre eux autres. En tout cas, le premier chapitre, ça parle des dettes vraiment que les pêcheurs doivent à la compagnie. Là. Fait que souvent, il y a des pêcheurs qui s'endettent, là, puis là, ils doivent un tel montant d'argent. Fait que là, ils n'ont pas le choix. Fait que là, ils sont dans la misère. Là, ils essaient de payer ça, là, ça va pas trop bien. Fait que là, ils donnent le cas d'un Thomas Mallet qu'on pense qu'il vient de Saint-Simon. Ça, c'est début 1900, là, je dirais de 1900 à 1911, 1912, là, c'est toute cette époque-là. Après ça, tu as un Honoré Chasson que lui aussi, il ne peut pas payer. Lui, il donne une sorte d'excuse là, en même temps. Il faut prendre pitié de lui. Il dit, le temps n'est pas bon, j'ai pas pu finir la pêche. Puis après ça, lui, ben, il se défend en disant que mon fils a travaillé 4 ans, un tel poste pour vous autres, puis vous ne l'avez jamais payé. Fait là, vous devez l'argent à mon fils qui n'a pas été payé 4 ans de temps. Fait que okay. Là, ils sont organisés entre eux autres. Ça, c'est un peu la première section. Après ça, tu as l'autre section que les gens, les femmes sont laissées ici parce que les hommes sont partis dans les chantiers l'hiver. Fait que là, la compagnie essaie d'avoir de l'argent du pêcheur, mais il n'est pas là. Fait que là, le pêcheur, je ne sais pas s'il s'est sauvé en ne pas payant pour s'escaper de ça, ou il devait vraiment de l'argent. Ou ils essayent d'aller dans les chantiers, soit dans la région de Bathurst, hein, ce qu'on a appelé nous autres dans la région ici, le Haut Bathurst, soit il y avait beaucoup de camps de bûcherons dans ce coin-là, puis on embauche beaucoup des gens de la péninsule acadienne pour aller travailler dans le Haut de Bathurst, comme on dit dans le temps, et puis beaucoup de pêcheurs pour faire leur année complète, pêche durant l'été, l'automne, puis après ça,
vont
aller dans un camp de bûcherons, bûcher, ouais. Puis s'ils ne sont pas là, là, la compagnie essaie de courir après l'argent qu'ils le doivent. Là. Puis là, des fois, ils menacent la femme qui restait toute seule à la maison, ou la femme essaie de se défendre en disant que mon mari est parti, il ne peut pas payer, mais qu'il revienne, vous pourrez.
Je suis toute seule avec les enfants.
Oui. Puis elle, à un moment donné, tu as une Madame Ferdinand Mallet. Ça ne dit pas d'où est-ce qu'elle vient, là. C'est une Mallet, elle devrait devenir de Chupagan ou pas par là. Elle plaide même, elle dit même à Georges le Riche de. Soyez pas trop dur avec nous autres. Puis elle dit que c'est vrai que mon mari est parti dans le bois. Elle dit que c'est pas un mensonge. Vous pouvez aller voir même le père Trudel de la Mecque. Il va dire qu'il est parti. Là, parce que le prêtre, c'était le personnage. Si le prêtre
oui,
dit
oui,
ça,
oui, oui.
Ça va être.
C'est vrai.
Oui, c'est vrai. Là. Après ça, on voit qu'ils font d'autres affaires avec d'autres compagnies aussi. Comme il y a des compagnies qui leur doivent l'argent, qui leur achètent des choses, comme la compagnie W.S. Logie, qui était présente aussi beaucoup sur le territoire du Nord-Est. Eux autres, avec, ils font des emprunts, ils achètent des choses. J'ai l'impression, s'il y a de quoi qui manque au magasin Logie, il y aurait comme acheté un petit peu au magasin des Frewing. Comme là, il achète du sel, de la corde, puis une bouée qu'ils appellent du box net ou une sorte de filet, là. Fait ça, c'est un peu pour ça. Après ça, il y a d'autres lettres qui disent que c'est le contraire. C'est pas juste les pêcheurs qui doivent de l'argent à la compagnie. C'est la compagnie qui doit de l'argent aux pêcheurs aussi, ou de gens qu'ils emploient, puis ils les payent pas. Fait ça, tu as beaucoup de lettres aussi qu'il y a des gens qui doivent de l'argent. Puis aujourd'hui, quand tu gardes le montant, c'est pas des gros montants qu'ils avaient payés, hein, tandis qu'aujourd'hui, c'est plus. Là. Comme il y a Eucher Landry, il y a un Édouard Leclerc, puis un James Chasson. Le cher Landry, lui, il a travaillé 3 jours, fait qu'on lui doit 3 piastres. Après ça, Édouard Leclerc, lui, a travaillé 2 jours, on lui doit 3,85. Puis James Chasson, lui, il a été travaillé 3 jours, puis on devait le payer 1,40 par jour.
Ce qui est quand même, ce qui était beaucoup dans ce temps-là. Là.
Ben, c'était le salaire d'époque. Moi, j'ai déjà vu ces salaires-là exactement, là, une pièce, coupe de cent, le plus c'est 1,40, 1,45. C'était les montants du temps, là. Fait que là, il leur doit ça pour les travails. T'en as un autre ici, des lanternes de Petite-Rivière-de-Lille. Même chose, eux autres ont pêché de la morue. Puis, il leur doit de l'argent, là. Puis, beaucoup de pêcheurs écrivent des lettres puis font des demandes d'argent à la fin de l'année. Parce qu'à la fin de l'année, ils font comme les bilans, là, au mois de novembre, décembre, après la saison de pêche. Puis là, on voit qui doit de l'argent à qui. Puis la compagnie doit des fois de l'argent aux pêcheurs qui ont pêché la morue. Puis ils n'ont pas eu tout leur argent. Fait que là, tu as des montants différents. Tu en as qui doivent 10, d'autres 40, 45, tu en as qui doivent 100. La compagnie doit 100 $ aux pêcheurs, je veux dire. Là. Fait que, bon, on ne sait pas tout ce qui s'est passé, parce que ça, c'est juste la correspondance. Des fois, on ne sait pas s'ils ont eu leur.
Ce qui s'est dit verbalement,
ouais. Puis après ça, tu as la compagnie aussi qui est un petit peu pas dans des difficultés, mais des fois, il y a des tensions avec sa banque à eux autres. Parce qu'eux autres, ils ont à la mec, il n'y a probablement pas de banque. Là. Fait que la banque où est-ce qu'ils ont leur compte, eux autres, c'est la Banque provinciale du Canada. Qui, je pense, va devenir la Banque nationale. Je ne suis pas sûr, je n'ai pas eu le temps de vérifier, mais je pense que oui. Là. Puis, eux autres, leur succursale est à Caraquette. Fait que la compagnie Foreign, qui est à la Mecque, fait affaire avec la banque, qui est à Caraquette. Puis, la banque, des fois, a dit à la Foreign là, qu'ils n'ont pas assez d'argent dans leur compte, puis il faut qu'ils fassent attention. Ils leur suggèrent d'avoir un minimum de 500 $ dans leur compte pour s'assurer qu'il y a toujours un fonds là, de roulement, en tout cas. Puis, dans d'autres lettres aussi, on voit ça dans des transactions bancaires. À un moment donné, ils donnent un gros montant d'argent. Je ne sais pas jusqu'à quel point c'est vrai. Il y a un Joseph Lambert en 1908 qui voulait acheter un wagon à foin. Puis, la compagnie va faire un prêt de 99 $, qui est quand même beaucoup, là, je trouvais, moi, pour
Pour l'époque.
un wagon. Ouais, pour l'époque, une sorte de wagon, c'est ça. Après ça, ben, tu as un autre bout que ça c'est bien connu, là. C'est les transactions des deeds, là, ce qu'on appelle les actes de transfert des terrains ou des maisons ou des propriétés, là. Ça, ces compagnies-là étaient très connues pour ça, de saisir un terrain si que tu ne pouvais pas faire tes paiements, tes remboursements de dettes envers la compagnie, là. Un peu, nous autres, c'est comme si... c'est un peu comme le mode de crédit. Là. On a des cartes de
Oui,
crédit
oui, oui.
aujourd'hui. On n'a pas un crédit directement à un magasin là, ou à une quincaillerie. À ce que j'y pense, ça, c'est
Ouais.
vrai. Mais de façon plus générale, on achète carte de crédit. Puis eux autres faisaient la même chose, ils achetaient à crédit au magasin. Puis là, des fois, ils se faisaient saisir une partie de leur terre parce qu'ils avaient des dizaines d'acres de terre souvent. T'en as un exemple, c'est une madame Lecouteur. J'ai l'impression que c'est une madame de Miscou. Il y avait beaucoup de Lecouteur dans ce temps-là, à Miscou. Elle essaie de se conserver son bien, là, puis elle envoie des lettres. Après ça, tu as d'autres chicanes en des habitants, là, puis la fouring est mêlée là-dedans. Tu as Thaddée Duguay, que je pense c'est celui de Pointe-Sauvage, là, contre un gars qui s'appelle Bill Mallet. Là, l'autre essaie de prendre la terre de l'autre. Puis là, la chicane est prise entre les deux. Puis là, l'autre essaie de garder sa terre. Puis enfin, la dernière section de l'article, c'est côté corruption un petit peu, ou
OK.
le zèle de certains politiciens ou hommes mêlés dans la politique ou les fonctionnaires. Fait que, tu as un petit article là-dessus, un petit bout là-dessus, qu'il parle de Pépé Morin qui était beaucoup impliqué là-dedans, Onésiphore Turgeon, qui était le député à Bathurst, qui était à sa maison et au village acadien. Lui aussi, tu sais, on envoie des lettres aux députés, puis on dit, ah ben, moi, mon fils, il cherche un job, peux-tu lui donner ce job-là? Il ferait bien l'affaire. Puis là, le député, lui, dit, OK, c'est beau, c'est lui qui va l'avoir. C'est un petit peu tout ça, là, c'est pas vraiment caché. Puis après ça, tu as les fonctionnaires par rapport aux travaux publics, puis à l'enregistrement des bateaux. Là. Puis des fois, il y en a qui sont un petit peu trop zélés, puis essayant d'avoir les bons noms, les bonnes affaires, puis essayant de gérer leur dossier comme le mieux qu'ils peuvent. Mais là, la compagnie, elle rouspète un petit peu. Qui sont trop. Tu sais, comme par exemple, il y en a un, c'est un pêcheur, il s'appelle
On n'a plus le temps,
Jean.
Philippe. Philippe, on n'a
Ah,
plus
ben,
le
c'est
temps.
ça. C'est ça. Ben, c'est ça.
On n'aurait plus
C'est
le nom,
là-dessus
mais
que ça finit.
c'est extrêmement intéressant. Et ce sera dans la revue qui est apparue ou qui est déjà parue.
Allez, ben, elle est sortie, elle est parue. Si on veut la voir, on peut aller la chercher, je sais pas grand.
Merci beaucoup, Philippe. À la semaine
Rien, à
prochaine.
la semaine prochaine.
Bye.
Envie de prendre une marche, mais tanné de votre circuit habituel? Profitez de la saison des marcheurs du Village historique acadien. De la mi-septembre au mois de mars, le site historique est ouvert gratuitement aux marcheurs tous les jours de 8 h à 16 h, quand le temps le permet. Avant de partir, vérifiez l'état du sentier en visitant le www.facebook.com/villagehistoriqueacadien.com. Les chiens en laisse sont acceptés, tout comme les vélos. Bonne randonnée!